rejoint sur le plateau pour cette deuxième partie de l'émission Ulysse Gosset, éditorialiste politique internationale. Bonsoir Ulysse.
Bonsoir.
Paul Gogo, vous êtes de retour avec nous pour le deuxième soir consécutif. On est très heureux, journaliste correspondant à Moscou. Et le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française. Merci à vous de nous avoir rejoints tous les trois. Vous avez sûrement suivi l'interview du porte-parole de l'ambassade russe sur BFM TV, Alexander Makogonov, qui en remet une couche sur les menaces russes contre la France, mais juste avant, sur ses soupçons d'ingérence russe en France. On parlait hier de ces 5 cercueils qui ont été déposés au pied de la Tour Eiffel ce week-end. L'ambassade de Russie dénonce une campagne d'hystérie russophobe. Et Alexander Makogonov en remet une couche sur BFM TV ce soir. On l'écoute.
Sérieusement, j'ai rien d'autre à répondre parce que c'est tellement ridicule. Tout ce paquet, tout ce ensemble d'accusations, il n'y a aucune preuve. Les étoiles de David, c'était les Moldaves derrière. Les empreintes rouges à la peinture, c'était les Bulgares. Oui. Pour les cercueils, c'est vraiment comme une anecdote là.
C'était un Allemand, un Ukrainien, un Bulgare.
Et vous voyez les Russes Vous voyez les Russes partout.
Mais non, mais pourquoi la Bulgarie en voudrait à la France sans aucune preuve.
Désigné coupable sur la base du fort probable, mais ça, franchement, c'est du nouveau dans la jurisprudence. Voir les Russes partout, mais vous voyez, franchement, vos concitoyens vont mal dormir à cause de cette paranoïa qui est cultivée par les médias français.
Mais voilà, Ulysse, on est complètement parano.
Oui, c'est pas la première fois. Il faut se souvenir que dès la première campagne d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, il y a eu des campagnes de déstabilisation, de désinformation contre le président français. Mais aujourd'hui, avec l'engagement réaffirmé du président et de la France en Ukraine, il y a un pas supplémentaire qui a été franchi. Le comble, c'était ces cercueils au pied de la Tour Eiffel. Vraiment, c'est un avertissement. D'ailleurs, le porte-parole du Kremlin
l'a
dit.
C'est votre réveil qui sonne, Ulysse.
C'est l'heure du crime. Non,
c'est l'avertissement.
Non, mais le fait, si vous voulez, que ce soir, le porte-parole de l'ambassade dise à propos des menaces proférées par le porte-parole du Kremlin, Peskov, en disant il n'y a pas d'immunité pour les soldats français.
Ça, on va y revenir.
Oui, mais c'est la confirmation, si vous voulez, qu'il y a un parallèle entre ce que dit Peskov à Moscou et ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou au pied de la Tour Eiffel.
On rappelle que sur ces cercueils étaient inscrits soldats français de l'Ukraine. Et lui, il dit, c'est intéressant, il dit, mais non, vous avez bien vu, c'est des Moldaves, c'est des Bulgares, c'est pas des Russes. Mais on sait que la Russie utilise justement ces intermédiaires qu'il paierait a priori pas très cher d'ailleurs, 150, 400 euros, c'est ce qu'on, en tout cas, ont affirmé les trois interpellés hier, pour pouvoir mener des actions contre la France.
Je rappelle ce que disait le cercle de Poutine il y a pas très longtemps. Les soldats français reviendront dans des sacs en plastique. C'est pour ça que le lien est évident entre les cercueils. Je rappelle aussi, parce que moi j'en ai reçu quelques-uns, que le cercueil envoyé, c'est un message de mort, c'est un avertissement mortel. On vous dit juste, vous pourriez terminer comme ça. Puis il y a un troisième message qu'on a trouvé très désagréable, c'est que là, c'était des sacs de plâtre qui étaient à l'intérieur. Mais si ça avait été des explosifs, ils ont été déposés au pied de la Tour Eiffel. Les services de sécurité ont été très rapides. Mais très rapide pour interpeller les personnes après que les cercueils aient été déposés. Donc c'est aussi un message de fragilité avant les Jeux Olympiques pour montrer que on sait vous envoyer des colis. Là, c'était des cercueils. Mais la prochaine fois, ça pourrait être autre chose.
Mais vous pensez que la Russie pourrait aller jusque-là
sans une hésitation.
Mettre des explosifs dans ces cercueils, j'aurais été capable.
Mais on sait que Poutine a organisé un certain nombre d'attentats uniquement pour pouvoir déclencher les choses. Si à un moment, il estime que c'est nécessaire pour lui, mais il le fera. Et il nous enverra Makogonov nous dire « Mais vous êtes tous hystériques. On a fait ça pour vous libérer. » Donc, c'est uniquement... Enfin, pour moi, il n'y a aucun lien entre les informations que délivre Moscou et ses ambassadeurs et puis la réalité. Quand on les écoute, ils sont là pour libérer l'Ukraine. Donc, bien sûr, ils n'ont aucun rapport avec ces cercueils. Et puis, en même temps, comme le rappelait Ulysse tout à l'heure, si jamais des instructeurs français venaient en Ukraine, c'est évident qu'ils seraient tués par les Russes.
Et ça, évidemment, on va entendre dans un instant le porte-parole du Kremlin l'affirmer. Paul Gogo.
Cette réflexion de M. Makogonov met aussi en relief le cynisme des Russes en permanence. Enfin, moi, correspondant à Moscou, je vis dans un monde de cynisme. Parce qu'il explique à la fin sa dernière remarque, c'est que vous essayez de faire peur à votre population, vous essayez d'inquiéter tout le monde. C'est exactement l'objectif de ce genre de choses. C'est qu'eux estiment que nous, démocratie, nous sommes faibles de notre capacité à débattre et à discuter de tout. Et le fait qu'on ait ces débats sur les chaînes de télévision, c'est exactement l'objectif voulu de ces opérations-là, que des gens se posent des questions, que des gens sont un petit peu effrayés. Donc ça, pour moi, c'est du cynisme, c'est une signature. Et il a eu la même signature que les responsables du Kremlin aujourd'hui, qui consiste à dire « ce n'est pas nous, vous accusez sans preuve ». Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on ira tuer tous les soldats français qui viennent en Ukraine si jamais ils viennent. C'est toujours comme ça en Russie. C'était la même chose après la mort d'Evgeny Prigojine. On n'a rien fait. Et le soir même, Vladimir Poutine était devant un orchestre qui était le surnom de Wagner pour dire qu'il n'avait rien fait, mais qu'en même temps, il ne fallait pas trop le titiller.
Mais il y a une chose quand même qu'il a dit ce soir, Makhachkov. Il a dit « nous sommes dans une guerre hybride ». Et ça, il le reconnaît. Donc la Russie, effectivement, est en guerre hybride contre l'Occident en général, la France en particulier, qui est en première ligne.
C'est l'équipe forcée à trappe quand même, parce que j'ose estimer que la Russie est un grand pays. J'ai souvenir, je sais, les années 80, j'étais déjà dans le jeu, je voyais ce qui se passait. C'était un petit peu plus sérieux quand même. Les arrivées de C4 depuis la Tchécoslovaquie, les pistolets, les fusils Dragunov qui étaient envoyés, ou les scorpions qui étaient donnés à des groupes terroristes sur le sol.
Oui, mais la désinformation, ça fait beaucoup de mal quand même.
Mais bien sûr,
il y avait beaucoup de mal. C'est une nouvelle forme de guerre.
Non, mais ce que vous savez, il y avait beaucoup de désinformation.
Il y avait,
on l'a su plus tard, il y avait même des grands journaux allemands et des grands journalistes allemands.
Qui étaient stipendiés.
Et des grands journalistes français qui étaient stipendiés.
Mais qu'est-ce qu'on fait, nous?
Ça fait un peu léger, je trouve, pour une opération aussi importante, de mettre des services de renseignement pour aller mettre trois cercueils avec des trucs en plate. Ils sont beaucoup plus efficace en ce moment avec les opérations de déstabilisation en Nouvelle-Calédonie, en Afrique. Ça nous fait beaucoup plus mal que trois cercueils en papier
mâché. Et c'est aussi de la désinformation en Nouvelle-Calédonie.
C'est assez bien joué parce que la question, c'est qu'évidemment, il n'est pas question pour les Russes qu'on puisse faire un lien direct et montrer que ça a été commandité par le FSB ou un autre organisme. Mmh. Et là, en utilisant trois pauvres types qui ont été payés quelques centaines d'euros, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient ou s'ils le savaient, ils n'avaient pas conscience. Ils savaient même pas qu'ils trimballaient des sacs de plâtre, hein. Ça aurait pu être des explosifs et c'est eux qui auraient déposé les cercueils. Ils auraient pas été relâchés par la police dans ce cas-là.
Le Bulgare dit qu'il fait ouvrir pour vérifier qu'il n'y a pas de vrais cadavres dedans.
Il a quand même vérifié au dernier moment.
Dans un sac de plâtre, je sais, vous camouflez une charge explosive aussi importante et vous n'y voyez que du feu, hein. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ces trois personnes ont tout de suite été interpellées et l'enquête s'arrête aussitôt parce que, en fait, ils n'ont aucun lien direct avec le FSB. C'est bien l'objet de ce genre d'intervention, c'est de déclencher un message, Paul le rappelait tout à l'heure, assez lourd, et puis en même temps pouvoir dire « Mais nous, regardez, on a les mains propres, on n'y est pour rien. »
Mais s'ils nous mènent une guerre hybride, quelle guerre menons-nous de notre côté? Alors, on ne met pas des cercueils sur la place rouge, mais face aux bots, face aux trolls, face aux vraies opérations de désinformation, est-ce que nous, nos services, contre-attaquent, arrêtent, ripostent?
Oui, pour la première fois, c'était... Avant l'actuel ministre de la Défense, il y a eu une communication du ministère des Armées disant qu'on ne se contentait pas d'essayer d'empêcher la désinformation, mais qu'on n'excluait pas l'attaque en contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une prise de conscience, il y a un renforcement de tous les moyens, notamment au sein de la DGSE, c'est-à-dire que la guerre hybride est considérée comme une arme de guerre crédible et il faut y faire face, et on n'exclut pas effectivement de riposter. Alors ça se sait moins, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Dans un contexte de menace grandissante de la Russie à l'égard de la France, la Russie qui dit, et vous l'aviez évoqué Ulysse, qui dit ne pas exclure que ses forces puissent frapper en Ukraine les instructeurs français. On écoute Peskov là-dessus, Dmitri Peskov, le porte-parole du gouvernement russe.
L'ensemble des instructeurs qui forment les troupes du régime de Kiev ne disposent d'aucune immunité, et peu importe qu'ils soient français ou non. Nous allons continuer cette opération militaire spéciale en conformité avec les tâches et les objectifs qui ont été fixés par le commandant en chef.
Et Alexander Makhachkov formait une couche sur BFM TV ce soir. Bah oui, il dit c'est la guerre, c'est comme ça. On regarde.
En France, vous avez un vieux principe que vous connaissez mieux que moi, la guerre comme la guerre. Donc si vous envoyez vos spécialistes, vos instructeurs, vos conseillers militaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais le mot-clé ici, c'est militaire. Si vous envoyez vos militaires en Ukraine pour qu'ils forment les combattants ukrainiens comment mieux cibler et tuer les Russes, bien sûr, ils se rendront compte du fait que ces spécialistes militaires, ces instructeurs militaires constitueront naturellement une cible légitime pour les forces armées russes.
Déjà, de quoi parle-t-il concrètement? Quels sont ces instructeurs militaires envoyés? Est-ce qu'ils sont déjà sur place?
Alors, d'abord, il y a déjà des Occidentaux, des militaires occidentaux sur place. Des Américains, des Britanniques et des Français. Mais ça n'a jamais été officiel. Là, ce qui est nouveau, c'est que la France cherche à mettre en place une coalition d'instructeurs européens. C'est-à-dire que c'est pas la France qui fait cavalier seul et qu'on peut accuser d'être va-t-en-guerre. Ce sont les Européens qui décident de mieux former les Ukrainiens sur leur territoire. Jusqu'à présent, les Ukrainiens étaient formés à l'extérieur. En France notamment, on forme des aviateurs, on forme des soldats. Il y a déjà eu, il faut quand même le savoir, 12 000 Ukrainiens qui ont été formés par la France. Et il y a un programme de 8 000 supplémentaires. Mais à chaque fois, il fallait qu'ils sortent de l'Ukraine. Ça prend du temps, c'est coûteux et c'est risqué. Parce qu'on peut évidemment être bombardé sur le terrain entre là où ils sont jusqu'à la sortie de l'Ukraine. Donc on réduit les risques, on est plus efficace et on les forme sur le terrain. Ça veut dire que ceux qui sont formés peuvent aller directement, éventuellement, sur le front ou dans les bases où ils sont affectés. Donc on essaye d'être mieux organisé et c'est pas simplement la France. Ce sont les pays baltes qui ont dit oui. Ce sont les Britanniques qui ont dit oui. Et le président de la République devrait faire une annonce à l'occasion du 6 juin. Il va prononcer un discours. Est-ce que ça sera à ce moment-là ou au cours de son interview le soir? Mais il devrait effectivement confirmer cette coalition. Ça a fuité du côté ukrainien. La France était furieuse parce que ça n'aurait pas dû sortir avant les fêtes du, avant
les. C'est le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Sirski, qui a dit que la France allait bien envoyer prochainement des instructeurs afin de former des troupes. Personne ne bloque au sein de la coalition européenne?
Il y en a qui sont pas d'accord parce que c'est vrai que c'est une forme d'escalade dans le soutien, si j'ose dire. C'est pas l'escalade dans la guerre puisqu'on n'est pas co-belligérants. Mais c'est vrai que, en accentuant la formation et en la faisant sur le territoire, d'abord c'est risqué parce que imaginons ce qui pourrait se passer si un missile russe tuer des soldats européens, qu'ils soient français ou lettons ou allemands ou autres. Évidemment, ça change la nature de la guerre. C'est bien le problème. Et d'une certaine manière, c'est une prise de risque. Mais c'est une façon aussi de dire à Poutine, n'allez pas trop loin. Et de toute façon, l'Europe restera derrière, comme l'Amérique, derrière l'Ukraine pour empêcher sa défaite. Le message est très clair.
Les pays occidentaux qui se rendent bien compte aussi qu'au fur et à mesure qu'on franchit des lignes rouges, finalement, il n'y a pas tellement de réaction de la part de la Russie. La Russie a bien compris sa mise faci et nous menace, nous Français d'ailleurs, particulièrement, on fait partie des cibles privilégiées de la Russie, régulièrement, à la télévision russe notamment.
Et c'est vrai que les invectives, en tout cas, du pouvoir russe à l'égard de la France se multiplient ces derniers mois. Scène surréaliste. C'était au mois de mars, sur la télévision publique russe, Russia One, Vladimir Soloviev. C'est l'un des principaux visages, justement, de cette propagande du régime de Vladimir Poutine. Eh bien, lui continue de déverser sa haine à l'égard du président de la République français. Et justement, dans cette émission quotidienne Full Contact, qui est, eh bien, regardée par des millions de Russes, regardez, c'est carrément face caméra qu'il a un message pour Emmanuel Macron.
Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde.
Tu es полноценный merde. Vanucci.
Alors, désolé, on va rester dans ce champ lexical magnifique, justement. Les attaques contre le président français ne se cantonnent pas à cette émission. Voici ce qu'écrivait Dimitri Medvedev sur Twitter. C'est l'ancien président de Russie. Macron s'apprête, eh bien, à se rendre à Kiev. Mais c'est un trouillard zoologique. Je recommande à son bureau de prendre plusieurs caleçons. Il s'est déjà chié dessus. Pauvre France. Ce sont les mots de l'ancien président russe. Je le répète, il avait écrit ça sur Twitter en français. D'ailleurs. Et puis la dernière en date, c'est vrai que c'est celle de Vladimir Poutine. Elle est beaucoup plus sérieuse. Celle-ci, justement, il répondait à la possibilité de frapper le sol russe avec des missiles français. Écoutez Vladimir Poutine.
Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe et notamment dans les petits pays, doivent savoir avec quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir en tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. Et c'est un facteur qu'ils devraient garder à l'esprit avant de parler d'une attaque sur le territoire russe. En général, cette escalade constante peut entraîner de graves conséquences.
Nouvelle menace donc. Aujourd'hui, la Russie, qui, je le rappelle, dit ne pas exclure que ses forces puissent frapper ces instructeurs français qui pourraient être envoyés très prochainement sur le territoire ukrainien. Les menaces, on y est habitué. Ça fait des mois, même quasiment deux ans qu'elles sont présentes, ces menaces contre la France. Il faut les prendre au sérieux ou voilà, l'histoire nous montre que finalement, ils font des menaces, mais il ne se passe pas grand-chose derrière.
Il faut d'abord regarder qui parle. C'est sûr que Soloviev, qui dit n'importe quoi à la télévision, on s'en fiche un peu.
Lui, c'est le propagandiste en chef, ouais. Animateur de télé.
Il veut faire de l'audience, c'est son job. Et il parle en plus à la frange la plus nationaliste, la plus pro-Poutine de Russie. Donc il est obligé d'y aller fort à chaque fois. Dmitri Medvedev, c'est plus problématique parce qu'il a un vrai rôle... en Russie. Bon, il y avait une petite enquête, c'est anecdotique, mais qui montrait qu'il recevait le vin de ses vignes européennes à chaque fois la veille de ses coups de sang sur les réseaux sociaux, ce qui a alimenté un peu son image de potentiel alcoolique. Il y a une enquête sérieuse qui a été faite. Après, je ne pense pas que ça vienne de son alcoolisme.
Mais elles ne sont pas sous embargo, ces vignes ?
C'était la première question qu'on s'était posée en voyant cette information-là. C'est assez étonnant. Ces gens-là, déjà, font partie d'un système qu'ils sont obligés de défendre. Ils ont peur. Ils savent que si le système s'effondre, il s'effondre avec. Et donc, ils sont obligés de tenir ces propos-là. Il faut les tenir au sérieux quand ce sont des gens comme Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev qui prononcent ces propos-là. Pour autant, il ne faut jamais oublier que, comme tout politicien dans tout pays, ils parlent aussi à leur propre peuple. Et ils travaillent au quotidien à essayer de mobiliser la population, à essayer de créer des ennemis communs, des ennemis imaginaires parfois. Et donc, il faut les mots forts pour convaincre les gens.
Guillaume Ancel, ces menaces à répétition, c'est un signe aussi, comme le disait Paul, de fébrilité de la part de la Russie.
Et d'une forme de faiblesse. Ce matin, on décomptait avec un spécialiste de sciences politiques que les Russes ont menacé à 90 reprises de l'arme nucléaire depuis le début du conflit. Donc c'est vrai qu'à un moment, en deux ans et trois mois, ça fait beaucoup. Et en réalité, quand on menace comme ça en permanence et de manière aussi récurrente, on voit bien qu'ils ont parfaitement intégré le fait qu'ils ne peuvent pas utiliser une arme nucléaire. Ça n'est qu'une menace. C'est assez, c'est assez pitoyable comme langage, comme message. On a l'impression d'un pouvoir, complètement égocentré, qui ne se rend même plus compte de ce qu'il est en train de raconter. Et puis surtout, c'est une inversion de la réalité. Tout à l'heure, Makogonov qui disait les Français seront des cibles légitimes. Enfin, la guerre n'a pas été déclenchée par les Français ni par les Ukrainiens. On a l'impression qu'ils ont oublié toute la première partie de l'histoire. C'est la Russie de Poutine qui a décidé d'agresser et d'essayer de soumettre l'Ukraine. Donc aujourd'hui, cette guerre n'existe que parce que la Russie veut l'agresser. Donc ils ne peuvent pas nous mettre dans un rôle de co-belligérant quand ils ont déclenché un conflit en Europe qui est totalement stérile.
Et pourtant, ils nous mettent dans ce rôle de co-belligérant. C'est à nouveau ce qu'a dit Alexander Makogonov sur BFM TV ce soir.
Vous voyez que, en principe, l'envoi des troupes françaises en Ukraine rapproche la France, mais vraiment rapproche grave à cette ligne à partir de laquelle commence la participation directe au conflit. Non seulement de facto, mais de jure aussi. Donc là, ça augmente vraiment les risques de co-belligérance française avec tous les dangers qui en découlent.
Quelle sera la vraie ligne rouge des Russes, Ulysse Gosset ?
Ça serait une offensive ukrainienne réussie qui mettrait à mal finalement le front russe et qui pourrait percer par exemple le front dans le sud ou par exemple une Crimée coupée en deux. Là, effectivement, le pouvoir russe serait obligé de réagir s'il se sentait menacé. Mais on en est loin puisqu'on est actuellement dans une offensive russe qui gagne du terrain d'ailleurs. Et les Ukrainiens sont sur la défensive. Mais surtout, je voudrais dire que la guerre hybride, c'est une autre façon de faire la guerre et il ne faut pas minimiser son impact. C'est vrai, c'est de la propagande, c'est vrai, Poutine menace le nucléaire et on le croit plus puisque finalement, il ne le fait pas. Mais l'impact sur les opinions publiques est considérable et ça affaiblit finalement le soutien de l'Ukraine en France, en Amérique et ailleurs. N'oublions pas qu'il y a le reste du monde. En France et en Europe, les opinions publiques sont plutôt du côté de l'Ukraine, même si ils ont une certaine lassitude qui s'exprime d'ailleurs. Mais par contre, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, cette désinformation, elle commence à payer. Et on voit qu'il y a une fracture entre l'Occident d'un côté, qui est favorable à l'Ukraine, et le reste du monde, ce qu'on a appelé le Sud global, même si on ne sait pas exactement ce que ça représente. Donc, ne minimisons pas cet impact, et c'est pour ça qu'il faut le dénoncer quand il se produit. C'est vrai, quand on en parle, ça fait de la publicité sur cette désinformation. Mais on ne peut pas laisser faire, si vous voulez, des cercueils au pied de Notre-Dame, on ne peut pas laisser faire. La désinformation qui dit, par exemple, que la DGSE ou la CIA affirme qu'il y a moins de spectateurs pour les Jeux Olympiques parce que les gens ont peur, on ne peut pas laisser passer. Donc, on est des démocraties, on a nos points faibles. La faiblesse, c'est qu'on dit les choses et qu'on les révèle lorsqu'elles arrivent. Mais néanmoins, c'est aussi la force des démocraties de pouvoir affirmer ce qui est la réalité et pas un monde parallèle qui est celui de Vladimir Poutine.
Mais est-ce qu'ils nous considèrent réellement comme des co-belligérants ? Si c'était le cas, si vraiment ils nous voyaient comme des co-belligérants, j'imagine qu'ils iraient un peu plus loin.
Mais non, il y a moyen et moyen. Moi, je suis plus rassuré quand les Russes parlent que quand ils ne parlent pas, je vais vous dire un truc. Parce que si c'est une guerre hybride, on peut s'attendre à des coups de billard extrêmement compliqués, par proxy. On peut très bien se retrouver avec des attaques sur les intérêts français à l'étranger par des groupes dont on n'a jamais entendu parler. On peut se retrouver avec des groupuscules violents dans des territoires d'outre-mer. On peut se retrouver avec des attaques sur des sites stratégiques en France. On peut se retrouver avec un tas d'options. Il y a un tas d'options. Encore une fois, je préfère quand les Russes parlent que quand ils se taisent. Parce que si on se rappelle des grandes opérations qui ont été menées contre les Français, et là encore, je vais faire appel à votre mémoire, j'aimerais éviter quand même qu'on se retrouve avec un deuxième Drakkar. Hein ? On se rappelle de l'immeuble qui était à Beyrouth. L'armée française avait occupé un immeuble à Beyrouth. On a perdu 60 parachutistes du 9e RCP. Donc, en tant qu'ancien parachutiste, j'ai encore les... Voilà, ça me traumatise. Essayons d'éviter aussi de se retrouver dans des situations où on considère les Russes comme des vats de la gueule et que, en vérité, ce sont des gens qui parlent grandiseurs et petits faiseurs. Et si c'est une guerre hybride, attention. Encore une fois, nous sommes dans un rapport ennemi-ami-ennemi. Là, pour l'instant, on est plutôt sur, ils ont désigné l'ennemi et c'est eux qui ont désigné l'ennemi. Nous avons estimé que nous sommes dans le camp du bien et nous avons raison de soutenir l'Ukraine parce que c'est elle qui a été attaquée. Attention, ne pas non plus déconsidérer un adversaire qui peut être
ne pas humilier la Russie, disait Macron. Mais je suis d'accord, quand il parle, au moins on a quelque chose à écouter et c'est mieux qu'un silence. Mais est-ce qu'il faut leur parler, comme le recommandait Nicolas Sarkozy dans le Figaro il y a quelques jours, c'est-à-dire reprendre langue avec Poutine ou par des canaux un peu plus discrets pour sortir de ces échanges de messages d'ambiguïté stratégique?
Mais la vulgarité, en plus, et je parle sous le contrôle de personnes qui ont vécu à Moscou, dans l'histoire de la communication politique russe, l'utilisation des injures, des insultes, c'est très commun. Et on se souvient qu'à l'époque stalinienne, alors les porcs, les hyènes dactylographes et autres vipères lubriques, on y avait droit. Donc,
Sauf que là, pardonnez-moi, parce que j'aimerais qu'on réécoute Makhogonov, ça va quand même loin. Vous savez qu'il est question que les Ukrainiens puissent utiliser les armes occidentales pour frapper contre le territoire russe. Là, on parle du côté russe, mais sous condition que ce soit proche de la frontière ukrainienne. Le feu vert a été donné par Joe Biden. Écoutez ce que dit Makhogonov là-dessus ce soir.
Ça change d'une manière très dangereuse le paradigme de la guerre parce que nous savons très bien comment s'effectue l'utilisation des missiles à longue portée fournis en Ukraine par l'Occident, y compris par la France. L'Ukrainien, en principe, là, ils sont pour rien. Ces missiles-là ne peuvent pas être utilisés sans les moyens du renseignement satellitaire. Les Ukrainiens n'ont pas ces capacités-là, c'est les pays de l'OTAN qui les ont. Puis, en ce qui concerne le ciblage et la programmation du plan de vol, c'est les pays de l'OTAN, les propriétaires de ces missiles qui le font. Alors, en principe, vous voyez le lien, vous voyez la logique. C'est pratiquement comme si la France ciblait directement avec leurs missiles.
Vous dites que c'est presque comme si la France frappait la Russie. Là, c'est pas que des petites injures. Il dit attention, vous êtes sérieusement en train de devenir des co-belligérants et on n'aime pas ça.
Nous, justement, on est en train d'avoir ce débat sur co-belligérants ou non. Là, à la limite, la question de savoir si on autorise les Ukrainiens à tirer sur la Russie, elle est réglée dans ce cas-là. Si eux nous considèrent comme des ennemis, dans ce cas-là, voilà, on peut dire très facilement aux Ukrainiens, défendez-vous, nous. Allez-y. Donc je pense quand même que ils nous menacent, ils utilisent les grands mots, mais eux-mêmes ne sont pas non plus en totale liberté d'action, d'agir, et c'est super facile de menacer. Alors, je suis aussi d'accord avec vous de dire que c'est pas que des gens qui utilisent des grands mots pour, enfin, qui peuvent passer à l'action derrière. Mais enfin, quand même, ils utilisent beaucoup de grands mots en ce moment. C'est leur travail, surtout à ce monsieur qui est, je le rappelle, porte-parole de l'ambassade à Moscou à Paris. Et donc voilà. Mais le débat, à mon avis, il va pas tenir très longtemps. Le débat sur l'utilisation non d'armes sur le territoire russe. Parce que si la Russie, de son côté, joue aussi l'aggravation de la situation, l'escalade de la situation, dans ce cas-là, il n'y a plus de débat nulle part.
Il y avait un déséquilibre dans la guerre. C'est que, effectivement, les Russes pouvaient tirer sur l'Ukraine et les Ukrainiens ne pouvaient pas riposter sur les postes d'artillerie ou les centres de munitions de la Russie, puisque c'était interdit, entre guillemets, en particulier.
Il y avait quand même déjà quelques frappes sporadiques sur le territoire russe depuis
maintenant. Oui, mais très limitées. Pourquoi l'Occident a changé? Pourquoi Biden a changé en particulier? Emmanuel Macron a changé parce que, effectivement, il a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et il a voulu le montrer de façon très, très forte et spectaculaire. Les Américains ont compris qu'il y avait un risque pour l'Ukraine, finalement, de, non pas de perdre la guerre, mais d'être l'objet d'une offensive réussie et d'un grignotage de plus en plus fort de l'Ukraine par la Russie. Et donc, il y avait un vrai danger. Donc, il y a eu une forme de réveil des Occidentaux qui ont dit stop, pour bien dire à Poutine, on va autoriser les Ukrainiens à frapper vos bases militaires près de la frontière parce qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine, en particulier la ville de Kharkiv, 1,5 million d'habitants, bombardée quasiment tous les jours.
Frontalière à la Russie.
Et front, à 60 kilomètres. Bon, alors, est-ce qu'on peut laisser les Russes bombarder Kharkiv et éventuellement prendre Kharkiv sans laisser les Ukrainiens riposter? Écoutez, non. Et on aurait même pu dire, il aurait fallu le dire avant pour empêcher que la Russie maintienne, poursuive son agression à l'égard
Sauf
de l'Ukraine.
Sauf que depuis le début, c'est ce qu'on remarque. C'est étape par étape, les Occidentaux, ils vont à tâtons pour voir si oui ou non, derrière, les Russes réagissent.
Alors, ce qu'a dit Makogonov, l'utilisation des missiles est exacte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les missiles Scalp, par exemple, qui sont livrés par les Français aux Ukrainiens, ils sont paramétrés par des soldats français en Ukraine, parce que ça ne se paramètre pas à distance. Et bien sûr qu'on repose sur du ciblage, sur du targeting qui est fait par les moyens de renseignement de l'OTAN. Et ce qui est intéressant quand Makogonov fait ça, c'est qu'il dit, regardez le lien entre les armes, les utilisateurs, les Ukrainiens. Si nous, on fait la même chose, si on fait le lien, je prends une citation qui m'a beaucoup intéressé, je la cite. Cela créerait un danger absolument faramineux sur la sécurité de nos compatriotes et sur l'intégrité de nos territoires. Vous retrouvez les propos pratiquement de Makogonov. Sauf que là, c'est Marine Le Pen vendredi dernier. Et donc nous, quand on fait les liens, parce qu'en renseignement, on aime bien regarder qui utilise les mêmes mots ou les mêmes symboles, les mêmes cercueils, les mêmes messages. On va renvoyer les soldats français dans des sacs en plastique. Eh bien, on est obligé de constater, parce qu'on est dans un contexte d'élections européennes. Samedi, ce sont les élections européennes qui vont être extrêmement importantes pour la Russie, pour savoir si l'Europe est capable de se mobiliser contre elle, ou si elle se disloque sous l'effet d'unités d'extrême droite qui font tout pour empêcher qu'il y ait cette mobilisation. On voit bien qu'en France, on a un parti qui relaye systématiquement les propos de Poutine et qui en plus s'affiche patriote, alors que manifestement, son patriotisme, c'est une dévotion à Vladimir Poutine. Donc moi, je trouve ça, dans un contexte politique, très inquiétant.
Les élections européennes, on en parle beaucoup en Russie, c'est regardé de près?
Non, je crois qu'on comprend même pas quoi. Ça, c'est... vous savez, le discours, il y a des diplomates qui travaillent à l'ambassade de l'Union européenne à Moscou qui se sentent très seuls parce que, en fait, ils sont pas toujours très reconnus. La Russie donne peu d'importance à l'Union européenne, en tout cas ouvertement. En gros, c'est pas vraiment reconnu par les Russes. Et d'ailleurs, les diplomates de l'ambassade de l'Union européenne à Moscou sont en fait attachés à leur ambassade de nationalité et ne font pas en fait partie vraiment de cette ambassade-là. Donc il y a une sorte de mépris que les Russes aiment bien diffuser sur tout ce qui est européen parce que c'est quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils trouvent même un petit peu ridicule, sachant que même pourtant leurs organisations régionales qu'ils essayent en permanence de mettre en avant, mais c'est une autre question.
Il y a une autre échéance un peu plus proche, il y a les commémorations, les 80 ans du débarquement allié en Normandie. La Russie n'est pas invitée. La réaction à nouveau d'Alexander Makogonov.
Cette soi-disant, entre guillemets, non-invitation de la Russie à cet événement, le 6 juin, n'en fait que montrer à quel point la mémoire historique peut être partielle et courte. Je dois vous rappeler que c'est grâce à l'Union soviétique et à l'armée rouge, grâce à ses succès à Front de l'Est en 1944, que ce débarquement a eu lieu. C'est justement l'Union soviétique qui a permis cette débarquement. Parce qu'en principe, en 1944, le destin du Troisième Reich a déjà été scellé. En juillet 1944, l'armée rouge était déjà en Pologne en train de libérer ce pays.
Oui, enfin, si les Américains n'avaient pas débarqué, ça n'aurait pas été la même chose quand même.
Tout était en principe clair. Donc là, les Américains, bien sûr, ils ont décidé de débarquer tout de suite pour que les Russes ne libèrent pas Paris, par exemple, comme c'était en 1814. Ça, c'est le dessin est clair.
Alors, vous regrettez
de ne pas répondre.
On sous-estime jamais la contribution de nos alliés occidentaux dans la victoire commune, mais il ne faut pas non plus sous-estimer, voire mépriser la contribution cruciale de notre pays dans la victoire commune contre le nazisme.
Sur cet argument-là, Ulysse, de dire « vous avez la mémoire courte, on a contribué à libérer votre pays aussi ».
Alors, évidemment, personne n'a oublié le rôle de l'Union soviétique et les sacrifices, les 20 millions de morts. Mais on pourrait rappeler Staline en 1941 qui négociait avec Hitler parce qu'il pensait qu'il avait perdu la guerre. Donc on va pas
et
rentrer
le pacte germano-soviétique.
Et le pacte germano-soviétique. On va pas rentrer dans la carrière historique. Mais ce n'est pas la Russie qui n'a pas été invitée. C'est Vladimir Poutine qui n'a pas été invité. C'est le régime qui a envahi l'Ukraine. C'est pas pareil. En 2014, la Russie a été invitée et il y a même eu ce fameux sommet de format dit Normandie où il y a eu d'ailleurs le président ukrainien Porochenko de l'époque qui a été invité à dialoguer avec Poutine, avec Angela Merkel et François Hollande. Il y aurait pu y avoir un nouveau format Normandie avec Zelensky, Poutine, le chancelier Scholz et Emmanuel Macron, mais c'est impossible parce qu'on est dans une impasse. Poutine ne cesse pas la guerre et il ne cesse pas l'agression contre l'Ukraine. Donc, on n'aurait écrit pas l'histoire ce soir, mais on veut bien faire comprendre à la Russie qu'elle n'est pas la bienvenue. Ça ne va pas empêcher qu'on se souviendra notamment de l'escadrille Normandie-Yémen et des actes héroïques des soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces explications sur ce plateau.